Donc on va poursuivre notre après-midi qui, je vous rappelle, est consacré à la gestion des ressources sur les territoires. Nous avons abordé, j'en ai déjà, la question de l'économie circulaire et la gestion de l'eau. On a abordé très rapidement la connexion entre le monde de l'eau et le monde de l'agriculture, et c'est le sujet que Massad Mbadachi va explorer maintenant.
Oh, merci, j'espère que vous n'êtes pas trop fatigué en fin d'après-midi. Juste un dernier coup avant de se pacifier à la table. Je vous remercie tout d'abord pour l'invitation à cette belle conférence, et je trouve que c'est une idée unique, vraiment dans la tradition française, d'avoir ces sortes de conférences en résidence. Et une semaine, 8 jours de débat et d'échanges dans l'atmosphère conviviale avec les collègues de diverses disciplines et avec la famille. Et déjà, une semaine est très longue pour les Japonais. Comme on a très peu de vacances, ça me fait réfléchir sur la richesse de temps donné pour le partage. Et jusqu'à présent, j'ai assisté à beaucoup de conférences en biologie, physique, la science des systèmes complexes, l'agroécologie et le développement durable. Mais parfois, c'est difficile de construire ou d'en arriver à un accord soutenu par les bonnes réflexions qui ne manquent pas la diversité et la profondeur. On tombe souvent dans les arguments trop serrés, la justification un peu biaisée de certaines technologies sous l'intérêt d'investissement, par exemple, donc dans la surcompétition et les critiques éphémères. Et, mais ici, je trouve qu'on peut faire des choses différentes. J'espère contribuer à une vraie synthèse au cours de cette conférence, à travers cette communication, les débats et les conversations professionnelles et familières. Donc c'est une conférence en résidence. Cette idée de partager une certaine durée de temps pendant et hors de débat me paraît très convenable afin d'aborder au sujet de développement durable. Et c'est un peu le workshop de vivre ensemble avec les composants positifs mais différents chacun. Et c'est bien cette intensification interne avec la considération à la richesse de temps et la diversité dont on dispose que je trouve être un modèle d'activité résiliente, disons, vis-à-vis de développement durable. Bon, je pense que les plus beaux exemples de synergie interne qui fait le fondement de la société durable se trouvent dans le monde des êtres vivants. La biodiversité de la Terre, qui ont évolué à travers de 4,6 milliards d'années d'histoire, sont les principaux procureurs des ressources naturelles et les services écosystémiques pour la vie des humains. C'est un véritable système complexe où les fonctions des écosystèmes et la maintenance de diversité s'exercent spontanément par l'auto-organisation. Il y a des mécanismes et des forces sous-jacents, gratuits, autogérés, qui soutiennent la coexistence des différentes formes de vie à l'état naturel, d'où naquirent aussi les êtres humains. Maintenant, permettez-moi de tracer l'histoire de l'agriculture assez simpliste pour situer où on est. L'histoire des civilisations humaines était tout d'abord la lutte pour la survie en milieu sauvage. Par des simples outils à pierre comme ça, nous avons appris à creuser le sol et cultiver les plantes utiles en isolation des écosystèmes d'origine. C'est la première installation d'agriculture il y a 10 000 à 12 000 ans à peu près. Depuis, on restait assez sobre pendant longtemps, formant la diversité socio-culturelle vis-à-vis de la survie dans les environnements divers dans le monde. L'incitation principale de la société était la survie couplée avec les valeurs religieuses. Et bien sûr, jusqu'à l'invention des sciences et la révolution industrielle en 18e siècle, la mécanisation d'agriculture a boosté la production et la population, le développement de l'économie et de l'industrie ont surgi la compétition globale qui a provoqué 2 guerres mondiales par le conflit sur les ressources naturelles. La guerre, d'une manière controversée à l'évolution de l'humanité, c'est une grande incitation pour les sciences et technologies. Après la guerre, les chars ont changé l'apparence aux tracteurs, l'usine de poudre explosive est transformée en sève d'engrais chimiques, des armes Agas toxiques sont à l'origine des pesticides et les organismes génétiquement modifiés se sont développés en couplage avec les pesticides. Ces composants technologiques, disons les héritages détournés de l'histoire, constituent le fondement de l'agriculture intensive en forme de monoculture largement mécanisée. Et ce n'est pas l'incitation du développement durable qui a construit le système d'agriculture d'aujourd'hui. En réalité, la sixième extinction massive est en cours dans l'histoire planétaire à cause des activités humaines, notamment l'agriculture. La vitesse d'extinction des plantes vasculaires est 500 à 1000 fois plus élevée que le taux d'extinction naturel. Surtout l'effet négatif sur la biodiversité par la conversion des terres pour les buts agricoles est plus signifiant que l'effet du changement climatique. C'est la publication en Science. Ce qui produit le paysage monotone, l'écosystème homogène mais vulnérable des champs d'agriculture, qui établit pourtant le fondement de la mondialisation. C'est le système socio-écologique en entier qui se sont modifiés par l'incitation de l'économie globale, qui se résume aujourd'hui en Europe à tels que le CETA avec le Canada et le PA avec le Japon. Mais comme vous voyez, on approche à la limite de croissance de notre système économique. La stagnation est partout, surtout dans le secteur agricole. La régulation pour la reprise économique du marché global devient trop oppressive aux paysans. Malgré le syndicalisme qui est hyperactif en France, on est en train de perdre la population saine des producteurs. Dans la société de consommation d'aujourd'hui, je peux dire que la condition d'être un membre normal, entre guillemets, c'est de s'appuyer sur des produits et des services commercialisés de plus en plus sophistiqués, de plus en plus coûteux, ce qui forme une nouvelle forme de pauvreté relative. Pour les gens qui n'arrivent pas à suivre l'accélération du cycle de consommation, la qualité de vie peut tomber à l'état tout aussi dévastateur que la pauvreté absolue. Je trouve que l'innovation technologique n'est plus suffisante. L'épuisement des ressources naturelles et les coûts environnementaux dépassent la capacité de l'écosystème global. Par exemple, la pollution de l'air et de l'eau, les dégâts sur la santé qui l'accompagnent, la diminution de la biodiversité, donc la désertification, les conflits provoqués par les crises alimentaires, tout ce qui est changement climatique, les météores anormales sont plus fréquents à court terme, on observe le réchauffement climatique à long terme. Donc la stratégie de croissance capitaliste exponentielle jusqu'à présent devient impossible dans divers endroits et la société doit s'adapter à la limite des ressources et se convertir à une société durable de la croissance dite sigmoïde, comme à la ligne bleue, qui maintient le fardeau environnemental dans la capacité de l'écosystème. Pour ce faire, il est urgent de reconsidérer les habitudes de consommation actuelles, en particulier la transformation massive du système alimentaire. Il s'agit d'une évaluation de l'état actuel des objectifs d'Aichi, adoptés par les parties à la Convention sur la diversité biologique, visant à réaliser une société où l'humanité coexiste avec la nature d'ici 2050, joliment dit par l'ONU. Voilà. À l'origine de ces problématiques actuelles se situe le système d'agriculture dit conventionnel. C'est la science de contrôle de la nature. Avec les simples protocoles linéaires, comme à gauche, en commençant par le labourage, on débarrasse les adventices et anéantit la structure du sol, et ensuite utilise les fertilisants pour gagner le rendement et emploie les pesticides éventuellement pour le protéger. Dans tous ces processus, cela produit massivement l'impact environnemental et requiert les ressources pétrolières comme matière première. C'est une situation vraiment paradoxale du point de vue de SOD énergétique. Malgré le fait que toutes les matières organiques sont produites de photosynthèse qui nécessitent aucun investissement artificiel d'énergie, la moyenne des calories des produits agricoles est inférieure à l'énergie investie pour le contrôle de culture. Ce sont les données de Japon entier. Ça veut dire qu'on peut faire mieux si on est tous des cyborgs qui mangent directement le pétrole au lieu de les verser dans les champs de culture. Voilà, on est à ce point-là. Et ça ne se justifie même pas par rapport au cycle des matériaux. Du point de vue de l'écosystème global, le travail du sol, c'est une dissipation des matériaux. Les ressources sont perdues par la pénétration souterraine et causent, bien entendu, la pollution des nappes phréatiques. la régression et la dégradation du sol déchargent le carbone et l'azote dans l'atmosphère, ce qui est estimé la cause principale du réchauffement climatique. Donc l'agriculture, en sens propre de ce terme, est un conflit fondamental entre les humains et la nature. Le système conventionnel s'est développé d'une manière heuristique dans l'histoire, avec le biais économique vers la monoculture intensive, sans considération à la conséquence globale. Comme les méthodes de production forment un cercle vicieux par rapport à l'impact environnemental, ça nous impose les conflits entre le développement et la conservation. L'acte de conservation, comme la jachère, reste toujours un compromis avec la production au niveau de traitement symptomatique. Et en fait, la plupart des civilisations anciennes qui ont développé l'agriculture d'une manière intensive se sont épuisées et disparues par la surexploitation de l'écosystème autour. L'agriculture n'était jamais durable à grande échelle dans l'histoire humaine. En somme, on peut constater, un peu ironiquement, que l'agriculture conventionnelle est l'activité humaine qui consomme les ressources pétrolières pour baisser la diversité de l'environnement et des aliments par la monoculture. Et ce n'est plus durable à long terme, surtout par rapport aux ressources naturelles, l'environnement et même l'économie globale. Il nous faut passer à un autre mode de production alimentaire, c'est sûr, un alternative qui provoque la diversité de l'environnement et des aliments en même temps et qui maintienne l'économie locale saine, sans dépendre principalement des ressources pétrolières. Bon, maintenant, essayons de reculer un peu et de changer le perspective. Pas de domination aveugle de la nature, mais de vivre ensemble. Ici, à gauche, on a le jardin des Tuileries à Paris. Tous les plannings des végétations sont ce contrôle de notre sens esthétique, et c'est la nature qui obéit à notre esprit. À droite, c'est le sanctuaire de Ise au Japon. Ici, tous les êtres vivants sont sacrés et incarnent l'esprit des dieux. Donc, on n'a pas le droit de débarrasser les arbres, même si ça gêne la construction. Et c'est notre esprit qui respecte la dynamique de la nature. Et je trouve que ces deux cultures ne sont pas forcément en opposition, mais possèdent un grand potentiel d'intégration. Si on converge ces deux esprits, quelle serait la meilleure conséquence ? Non seulement de respecter la nature, mais de comprendre la dynamique et contrôler pour s'en servir mieux pour l'humanité et l'écosystème global. C'est le point de départ de la cinécoculture, l'agriculture cinécologique, que j'ai commencé l'expérience au Japon en 2010. On commence par la construction d'écosystèmes, pas de destruction, donc sans labourage, sans fertilisants, sans pesticides et herbicides. On introduit la biodiversité d'une manière extrême et intensive. Ici, on a planté 200 espèces comestibles sur 1000 mètres carrés. Des légumes, des herbes médicinales, ce que vous voyez en gros plan, des arbres fruitiers, un total plus de 1000 variétés. C'est une biodiversité qui dépasse largement celle de l'état naturel. Et en concurrence avec les végétations spontanées, ça forme les niches écologiques de façon planifiée pour les récoltes efficaces dans la succession. On appelle cela l'agriculture cinécologique, ou simplement la cinécoculture. Et comme le nom indique, j'ai intégré beaucoup de connaissances de la cinécologie. C'est une discipline qui étudie l'auto-organisation de la communauté des plantes en tant que système complexe. Et aujourd'hui, on appelle ça plutôt l'écologie des communautés. J'ai commencé par la traduction de l'agronomie à la cinécologie. Et c'était une vraie création de l'agroécologie vis-à-vis de la nature. Commençant par le labor, par exemple, observant par les yeux des autres plantes et les animaux, c'est une destruction de l'écosystème, surtout la surface la plus riche de la Terre. Mais la distribuance même est présente partout dans la nature, qui contribue à la diversité de la communauté. On appelle cela la distribuance positive à la biodiversité. Par exemple, le renouvellement de la forêt se fait plus rapidement par les distribuances partielles de l'intensité modérée dans ces photos. Et dans la cinécoculture, cela se traduit par la modalité des récoltes, l'éclaircissage des communautés denses et mixtes, l'effeuillage des pousses concurrentes. Ça peut être une bonne solution pour le contrôle de la diversité de cultures. En ce qui concerne le fertilisant, ça n'existe pas d'une manière isolée dans la nature. L'utilisation empirique des engrais n'a que moins de 200 ans d'histoire suite à la révolution industrielle. Et c'est l'homme qui a inventé les fertilisants d'une forme isolée par le développement de l'agriculture. Avant, c'était une simple jachère ou les sédiments d'inondation, par exemple, qui a renouvelé la productivité du champ. Et d'une manière plus générale, dans la nature, ce n'est pas par le fertilisant que les plantes croissent, c'est par le cycle des matériaux dans l'écosystème en entier qui soutient le développement de la communauté en entier, au sein duquel chaque plante individuelle trouve sa place. Le terrain fertilisé n'existe donc pas dans la nature, c'est juste la succession écologique qui génère l'état du sol, dite fertile. Et pareil, il n'existe pas les pestes ni les mauvaises herbes dans la nature. C'est en fonction du système agricole qu'on adopte, par les moyens très limités de l'expérience humaine, qu'on juge l'utilité des espèces. On élimine les espèces qu'on croit être inutiles. En réalité, toutes les espèces existantes contribuent à la biodiversité qui soutient le fonctionnement de l'écosystème. Donc, c'est la source de résilience distribuée en diverses formes de créatures. Et les humains n'ont pas encore raisonné sa perfection. Nous avons déjà les évidences scientifiques. Dans le champ de cinécoculture, par l'association des diverses plantes à haute densité, la biodiversité est provoquée au-delà de l'état naturel. Et la structure du sol est formée par les racines et l'activité de divers micro-organismes augmente. Pour protéger l'environnement souterrain, il ne faut pas labourer le sol. Quand la végétation est établie sans labourage, la croissance est écologiquement optimisée au niveau de la communauté par les interactions symbiotiques. On peut obtenir diverses sortes de produits tout au long de l'année. La productivité totale résultant de la fréquence de récolte ne permet de supprimer l'utilisation des fertilisants. Supprimer la fertilisation de toutes sortes évite aussi la pollution des nappes phréatiques et l'encombrement du cycle des matériaux dans le sol. Et enfin, la végétation complexe abrite la chaîne d'alimentation avec beaucoup de prédateurs, ce qui nous permet de remplacer les pesticides. Voilà un peu le schéma. Et cette stratégie d'organiser l'écosystème au niveau de la communauté aboutit à plusieurs points forts pour la production et consommation locale. Bien que chaque plante individuelle reste petite, parce qu'il n'y a pas de fertilisation, et sa croissance lente, la récolte par l'éclaircissage de la polyculture mixte peut gagner par la fréquence, ça peut gagner par la fréquence de récolte et la densité de culture. On attend le rendement 4 fois plus élevé par rapport au système de production maraîchère conventionnel au Japon. Et pourtant, il est vrai que, comparant au système conventionnel, la récolte de cinécoculture fluctue beaucoup plus pour chaque produit individuel. Mais comme les coûts sont minimisés, la rentabilité totale est bien plus haute. On observe aussi la réaction positive de diversité des produits par rapport à la variance de l'environnement. Par exemple, plus les météos sont divers, plus on a la variété de récolte. Donc c'est une autre forme de résilience. Nous avons vendu depuis 2011 80 sortes de produits de cette petite ferme, tout en traversant les séries d'été qui est conçue comme météo anormal. Mais on arrive quand même à vendre 80 sortes de produits qui est équivalent à la diversité régionale de produits. Et en fait, la diversité des espèces introduites dans 3000 m² des champs de cinécoculture associés dépasse la diversité régionale des produits du système traditionnel. Cette productivité est soutenue par la biodiversité hautement provoquée qu'on a observée et enregistrée comme base de données. Nous avons observé plus de 1000 espèces, plantes et insectes, dans notre champ et autour. Beaucoup de papillons qui servent comme pollinisateurs, qui n'existent pas dans un champ conventionnel à cause des pesticides. Et même les insectes rares, qui sont rares même dans les zones protégées, y compris celles de la liste rouge en voie d'extinction. On pourrait même dire que la biodiversité la plus intensive dans l'histoire de la vie pour se réaliser par l'assistance humaine. Et dans le cas le plus concentré, 400 espèces et 1000 variétés ont été testées pendant 6 ans dans ce petit champ de 250 mètres devant chez moi, au milieu de Tokyo. C'est plus que l'agriculture urbaine, mais l'augmentation exceptionnelle de biodiversité réalisée dans la métropole. J'ai introduit au début que le détriment de la biodiversité qu'on observe aujourd'hui est dû à la forme d'agriculture homogénéisatrice qui produit 90% d'aliments par juste 30 espèces de plantes. En revanche, il existe plus de 30 000 espèces de plantes utiles qui sont répertoriées dans l'histoire de l'agriculture. Donc si on introduit cet héritage génétique par l'expansion de la sinécoculture, 1000 fois plus de diversité et la biodiversité associée sera potentiellement mobilisée pour pallier l'extinction massive. Et bien sûr, notre culture culinaire est le principal conducteur pour l'augmentation de biodiversité par la sinécoculture. Nous pouvons inventer les innombrables nouvelles recettes, découvrir les nouvelles utilisations des plantes comestibles, les plats que personne n'a jamais vus et qui n'existent pas ailleurs. Ça n'existe qu'une seule fois. Ça ne se reproduit pas. Et cette idée d'adaptation écologique par la diversification culinaire est en cours de réalisation en collaboration avec la cantine de Sony. Donc si vous venez à Tokyo, vous allez en déguster prochainement. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire sur la santé? La richesse gastronomique est fortement liée à notre santé, qui se fonde sur la richesse des aliments et des nutritions. Surtout ce qui est essentiel à long terme, comme l'effet protecteur de la santé, ce sont les micronutriments, comme les minéraux et les phytochimiques, qui sont les produits des interactions écologiques entre les plantes et les animaux. Dans les produits de la sinécoculture, nous avons observé que l'effet de biodiversité a augmenté la concentration des minéraux. Et pour les substances phytochimiques, on observe l'expression des composants bénéfiques pour la santé. Ici, montre dans le thé vert produit de sinécoculture, parmi les 600 composants détectés par l'analyse de métabolome, on a identifié 200 substances en point rouge qui ont montré l'expression particulière amplifiée, la majorité étant les substances pharmacologiques, donc qui soutiennent le fonctionnement de notre métabolisme. La qualité des produits végétaux se définit en fonction de l'environnement, surtout la biodiversité qui l'entourait lors de sa croissance dans le milieu écologique. On a besoin de biodiversité pour améliorer notre santé à long terme. C'est une vraie qualité de la nourriture. Les atouts de la sinécoculture se distinguent encore plus face au changement climatique. Voici le modèle de croissance théorique dans la communauté dense et mixte des plantes en comparaison avec la monoculture. Je ne peux pas entrer en détail, mais je l'ai construit à partir des 4 ans d'expérience au Japon. Et dans cette figure, ce qu'on peut suggérer, c'est que le mode de production en sinécoculture excelle dans les conditions marginales, donc un peu au bout, comme les zones arides et la qualité faible du sol. Et aujourd'hui, on ne manque pas de terrains pauvres par la pression démographique et d'agriculture. 70% des terrains arables dans les zones arides sont en désertification. Et 1 milliard de personnes souffrent de cette conséquence. Surtout dans les pays asiatiques et subsahariens, on attend 2/3 de la croissance globale et la demande alimentaire d'ici 2050. Ce sont les plus grands secteurs par rapport aux émissions agricoles aussi. Et ces régions expérimentent déjà la détérioration sérieuse du sol et l'effet négatif du changement climatique associé à la corruption, par exemple, à l'avance des autres pays développés. Ce sont donc les zones sensibles qui sont un présage de la terre de demain. J'ai apporté la sinécoculture au Burkina Faso en 2015, le pays qui se situe dans le Sahel au sud de Sahara. Et depuis, nous nous sommes collaborés avec un ONG local qui s'appelle Afidra sur la mise en pratique de la sinécoculture dans le Sahel. On a commencé la première expérience en mars 2015 en associant 150 espèces des plantes comestibles dans 500 mètres carrés, suivant les règles de la sinécoculture. Et le résultat était extraordinaire. Juste dans un an après l'installation, le terrain inculte, comme à droite, s'est transformé en une forêt de diverses plantes comestibles, comme à gauche. Et sur la terre pauvre et épuisée, on y trouve l'émergence de la communauté des plantes introduites qui rétablit le fonctionnement sain de l'écosystème. Et la productivité atteint 1 000 euros par mois par la vente des produits aux marchés locaux. Cela signifie qu'on a gagné 20 fois plus que le revenu national brut par habitant du Burkina Faso, ce qui correspond à 40 à 150 fois plus de productivité que l'agriculture maraîchère conventionnelle dans ce pays. Et l'impact économique rural est essentiel afin de résoudre la pauvreté dans cette région. Cette expérience a procuré 50 fois plus de revenus que le seuil de pauvreté absolu pour la vie à la capitale. Ça veut dire que juste 10 mètres carrés de champ de sinécoculture pour soutenir la vie économique minimale d'une personne adulte à Ouagadougou. En comparant aux autres modes de culture testés simultanément, la sinécoculture se situe exceptionnellement hors du conflit entre la productivité et la dégradation de l'environnement. C'est la biodiversité hautement provoquée qui génère la synergie entre la production et la construction de l'écosystème en même temps. Cette sorte de corrélation positive entre la biodiversité et productivité n'a jamais existé dans l'agriculture de cette région à ce niveau de l'impact économique. Ce succès nous a dirigés d'organiser 2 conférences internationales et 1 conférence pour les enseignants universitaires sur la sinécoculture. Et nous avons relevé les défis et élaboré les collaborations pour la mise en place de la sinécoculture en Afrique, commençant par les régions sahéliennes. Et nous avons également construit cette année un centre de recherche et de formation en sinécoculture avec les soutiens des 3 ministères burkinabés et de l'ambassade de Japon qu'on espère pouvoir... le degré académique universitaire. Et notre simulation montre que ce n'est pas impossible d'atteindre certains piliers importants des objectifs d'Haïti en 2020 et de contribuer substantivement aux objectifs de développement durable à l'horizon 2030 de l'ONU pour éradiquer la pauvreté, protéger la planète et garantir la dignité de tous. C'est un peu le slogan de l'ONU. Et commençant par le Japon et l'Afrique subsaharienne, les pratiquants de sinécoculture s'étendent dans le monde. On espère pouvoir couvrir la plupart des zones climatiques arables du monde dans le futur proche. Et contrairement aux problématiques des pays développés, pour la révolution de l'agriculture, il faut cibler les petits paysans, qui sont la majorité des producteurs dans le monde. Ce sont les petits producteurs inférieurs à 2 hectares à l'échelle de la famille, qui produit 70% des aliments dans le monde et qui cultive sur 80% des terrains agricoles et qui occupe la moitié de la population globale. Ils sont petits, mais ils sont nombreux. Les petits effets s'accumulent à une grande conséquence. Notre planète ne peut plus tolérer la pratique de l'agriculture de type consommateur des ressources et des matériaux. Le bilan du cycle des matériaux dans l'écosystème global est déjà rompu par l'agriculture, et il nous faut passer par un autre chemin, le chemin qui ne consomme pas d'énergie, pas de matériaux excessifs. Ce qui nous reste, à mon avis, c'est l'intelligence, l'information, qui amplifie la synergie dans l'organisation écosystémique et qui contrôle la résilience. À notre laboratoire, nous développons les bases de données, les outils d'analyse et les interfaces informatiques pour la gestion de la sinécoculture. C'est un peu la spécialité de Sony. Et ces technologies d'information et de communication consomment aussi les ressources pétrolières, mais la signification est bien différente. Dans l'agriculture conventionnelle, ces ressources sont investies directement pour la production et disparaissent dans le cercle vicieux contre la durabilité. Et ce que je veux réaliser, c'est d'utiliser ces ressources d'une manière effective pour que les êtres humains acquièrent les connaissances et se mettent en accord pour la réalisation du système socio-écologiquement durable. Je reviens aux pays développés, là où on est planté avec le mode de production intensifié à grande échelle. Et c'est bien difficile, j'avoue, de remplacer le système conventionnel ancré massivement dans la société. Mais ici, le changement vers le développement durable peut venir d'autres extrémités des petits producteurs, agriculture urbaine. Les citoyens ont commencé à réfléchir et à agir ce qu'on peut faire dans notre petit jardin, dans les métropoles. Aujourd'hui, l'espace vert, le jardin de quartier et la toiture végétale, comme ceci, sont à la mode de l'agroécologie urbaine. Mais je me pose la question, quel serait le rapport avec la résilience globale? Suffit-il de jouer à l'écologie dans les cités pour atteindre les objectifs du développement durable? À mon avis, l'agriculture urbaine doit encore franchir ses pas vers les procureurs d'informations pour les pratiques dans les zones rurales, encore dans d'autres pays. L'agriculture urbaine dans les pays développés pour jouer le rôle du centre d'intelligence pour toutes les micro-fermes qui sont la majorité dépourvues des ressources et d'informations dans le monde entier. Comme l'expérience à Tokyo a montré dans mon petit jardin, le milieu urbain abrite les conditions favorables pour l'expérience de l'agroécologie intensive. L'accessibilité au marché des graines, l'instrument d'observation électronique et la conscience à l'écologie hors du conflit de l'agriculture conventionnelle. Et par l'agriculture urbaine, non seulement on peut augmenter l'autosuffisance, la qualité et l'efficacité du système alimentaire, mais on peut tester le dépistage des multiples associations des plantes dans divers environnements. Et ici démontre un exemple du réseau de connaissances sur la biodiversité et les services écosystémiques dans les champs de sinécoculture au Japon. Ça sert par exemple à développer la version européenne de sinécoculture dans la zone tempérée qui est déjà en cours. Et pour ce but, nous avons développé le système de partage d'informations distribuées visant la connexion des pratiquants à l'échelle planétaire au nom de Megadiversity Management System, Megadiversity qui signifie la biodiversité de haut niveau, qui est déjà utilisable au niveau de prototype. Et ce système peut connecter les cités du monde entre les producteurs, distributeurs et consommateurs d'une manière pair à pair qui favorise l'économie collaborative et la distribution équitable par rapport aux chaînes alimentaires actuelles à gauche qui sont dominées par les petits nombres des intermédiaires comme les grands supermarchés, le réseau pair à pair à droite pour réduire les déchets alimentaires, les marges des intermédiaires et les coûts environnementaux en forme d'échange direct des produits et des services. Et cette nouvelle forme de chaîne alimentaire plus efficace et qui promeut la diversité socio-écologique est envisagée suivant le développement de la nouvelle technologie de l'Internet comme blockchain. Les informations obtenues dans les jardins d'hiver de la sinécoculture, par exemple, peuvent être partagées globalement entre les régions selon la similitude des conditions environnementales. Notre projet a déjà commencé le partage des données et des graines entre Japon, Burkina Faso et Taïwan pour l'expérience mutuelle dans différents endroits. Et les mêmes espèces sont testées dans les conditions différentes de zones tempérées et tropiques en vue de fortifier les portefeuilles, ce qu'on appelle les portefeuilles des plantes cultivables face au changement climatique. Et bien sûr, il existe par exemple des risques typiquement partagés dans le monde, comme les ouragans et inondations, qu'on peut coordonner le dépistage collectif des variétés résistantes à travers les différentes régions sensibles. Et le partage des données sur la propriété sinécologique des plantes est essentiel pour la mitigation des risques de notre système alimentaire. Et quand on discute sur l'autosuffisance alimentaire, il y a deux mesures. L'autosuffisance en calories et en valeur de production. La France, par exemple, attend plus de 100% de l'autosuffisance alimentaire sur la base calorique, en bleu, mais cette mesure est trop simpliste. L'autosuffisance à la base de valeur de production, en rouge, est par exemple 83% en 2013. Ça veut dire, au niveau économique, on est dépendant de l'importation pour 17% de valeur de nos aliments. C'est l'interaction économique qui complémente notre système alimentaire de manière mutuellement dépendante de l'extérieur. Et si on examine pour chaque catégorie des produits alimentaires pour la France, on observe que la moitié des fruits dépend de l'importation. Alors ceci dit, même avec la mesure globale de l'autosuffisance calorique qui dépasse 100%, on est toujours dépendant de l'importation au niveau de la diversité des produits. L'autosuffisance par rapport à tous les spectres des aliments de base doit se définir comme la vraie mesure de résilience. Et c'est bien pour ce but que la sinécoculture s'appuie sur la production locale des variétés suffisamment nombreuses pour soutenir la résilience de culture et la diversité des produits tout au long de l'année. D'ici 2050, on est face au vrai changement de la société, de l'écosystème. On sait déjà que la pression anthropogénique estimée d'intriguer la détérioration globale de la biodiversité vers 2045, quand la population dépasse 9 milliards d'habitants. Et la situation qu'on observe dans les pays subsahariens deviendrait plus courante dans notre futur. Qu'est-ce qu'on peut faire? Si la croissance démographique est inévitable, il faut construire l'écosystème aussi divers et résilient que le nombre des humains. J'appelle cela l'augmentation anthropogénique des écosystèmes, l'impact écologique positif et original par les humains, notamment par le convertissement d'agriculture majoritaire de petite échelle. Ici, dans le schéma en bas, la simulation théorique montre que si on arrive à convertir l'agriculture, à avoir les rôles constructeurs de la biodiversité, surtout l'agriculture à petite échelle qui soutient la majorité des aliments globaux, on arrive à atténuer les risques. voire possible, d'éviter l'effondrement de l'écosystème global. La méthodologie et les outils primaires sont là avec la sinécoculture et j'attends vivement votre participation pour mieux développer cette activité. Je vous remercie.